Bonjour, bienvenue au podcast J'ai des questions. Je m'appelle Mindy et aujourd'hui, je suis heureuse de partager avec vous la conversation que nos animatrices Christina et Elisabeth ont eue avec Corentin Messina sur la solitude. Corentin est pasteur à l'église Acts 21 à Sherbrooke en tant que responsable des départements jeunesse et jeunes adultes. Il est aussi en processus d'obtention de sa maîtrise en théologie pratique au Presbyterian College of Montréal. Il est grand fan des chiens bergers australiens et il adore l'Estrie, où il habite avec sa belle femme Alana et leur chat à trois pattes. Et on trouvait que Corentin était la bonne personne pour répondre à nos questions sur la solitude, telles que « Où est Dieu dans ma solitude? » « Quoi faire si je me sens seule parce que je suis incompris ou pas accueilli? » Est-ce que la solitude est toujours un problème à régler? C'est le genre de questions qu'on se pose dans cet épisode de J'ai des questions.
Bonjour et bienvenue au podcast J'ai des questions. Moi, c'est Christina et je suis accompagnée aujourd'hui de mon amie Elisabeth qui va être ma co-animatrice aujourd'hui. Bienvenue, Élie.
Merci, Christina.
Ça fait une couple d'années que je remarque qu'on a plus d'opportunités d'être seule. C'est maintenant possible de travailler et d'étudier à distance. En fait, aujourd'hui, notre enregistrement se fait à distance, fait qu'on est toutes même, on est toutes dans des salles différentes. Puis je pense qu'avec les opportunités d'être seule viennent aussi des risques de vivre un peu de solitude. Et c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Aujourd'hui, on a comme invité Corentin, qui va nous aider à explorer le sujet et les implications de la solitude dans notre vie. Alors, bienvenue, Corentin.
Merci, Christina. C'est un plaisir d'être avec vous.
Corentin, en fait, il organise une conférence qui s'appelle Bible XXX. Et avant de se lancer dans le sujet de la solitude, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de la conférence que tu organises.
Yes, super. Donc, on est pour notre troisième édition cette année. On voit plus grand. Avant, on le faisait dans notre coin, en Estrie. Parce qu'en Estrie, on a cette idée qu'on n'a pas besoin de Montréal. Mais nous, tout d'un coup, on a une révélation qu'on avait besoin de vous, genre de Montréal et du Grand Québec. Mais en fait, Bible 3X, c'est l'idée qu'on a besoin de développer une théologie de relations, une théologie sur les relations. Oui, sur le corps, la sexualité, mais sur les relations. Donc, notre idée, c'est que ça fait 3 années maintenant qu'on le fait, c'est d'avoir une des conférences où, ensemble, on regarde le texte biblique, on l'investigue, on en discute. C'est vraiment un endroit pour un échange d'idées et d'expériences, mais avec la centralité de la Bible et de l'Évangile. Et cette année, en fait, on voit plus grand, on fait une journée complète. On voit plusieurs invités de différentes familles d'églises qui vont être là. Et le thème, c'est beaucoup plus en lien avec la communication. Donc, qu'on soit en couple, célibataire, seul ou entouré, ou seul et pas entouré, on est appelé à être en relation et à communiquer avec les autres. On va avoir différents ateliers, que ce soit une amitié qui transcende le temps. Comment on construit une amitié solide, vraie, oui, vulnérable, mais la Bible parle beaucoup plus que juste de la vulnérabilité. Le mensonge qui tue, comment une vérité détournée peut détruire la confiance d'une relation. On va parler aussi de repérer et sortir d'une relation toxique. C'est quelque chose qu'on parle souvent dans notre société, mais en tant que chrétien, dans nos églises, comment on peut repérer ça? Il y a plusieurs rapports dernièrement qui sont sortis, même par rapport à la violence conjugale et autres, et comme quoi que l'église n'est pas plus différente que la société. Donc comment nous, les jeunes et moins jeunes, on peut se positionner pour être une bonne nouvelle dans notre entourage. Et on va finir avec une prédication sur avoir la vraie discussion dans nos amitiés. Donc, à partir des lettres de Paul, Paul est un super exemple de reprendre avec fermeté et amour des gens qu'il a connus et expérimenté des choses avec. Donc, ça va être un peu ça les sujets qu'on va avoir. Puis le but de cette conférence-là, c'est de nous donner le goût à ces discussions. C'est pas vrai qu'en 45 minutes pour un atelier, on va avoir la réponse en entier. Mais nos invités, ils vont rester là toute la journée avec nous, au Théâtre Magog. Donc, il y aura la nourriture fournie, on est là pour connecter ensemble, même avoir un peu un format 5 à 7 après. Donc, c'est quelque chose qu'on... à ne pas manquer, puis ça coûte pas cher, en plus c'est 15$ pour étudiants, 20$ si t'es pas étudiant. Moi je crois que cette année on voit en grand, puis pouvoir de changer va être là avec nous aussi, ça va je pense déboucher sur plusieurs autres initiatives, donc c'est à ne pas manquer. Donc c'est le 23 mars, on peut s'inscrire sur nos réseaux sociaux, vous pouvez suivre Axe 21 Jeune Adulte, mais je pense aussi pouvoir de changer étudiant va avoir mis ça sur ses réseaux. Inscris-toi avec tes amis, viens faire un petit road trip en Estrie. Tu vas pas regretter. Donc, c'est une invitation que je t'envoie. Ça va me faire plaisir d'accueillir tout ce beau monde-là à Magog le 23 mars.
Nice. Élie, est-ce que tu as tes billets?
Pas encore, ça s'en vient. J'ai réservé la date. Genre, je commence à en parler à du monde, mais j'ai pas encore, tu vois, j'ai oublié qu'il y avait une étape de plus que juste cliquer sur « j'y vais » sur l'événement Facebook. Donc ça, j'avais oublié. Merci, Corentin, de me rappeler.
Oui, l'équipe de J'ai des questions va être là. On a hâte d'être là. On va animer même un petit vox pop. C'est ça l'espoir. Alors, si vous venez à l'événement, essayez de nous trouver. On a des questions pour vous. écoutez, j'ai vraiment hâte. Une des choses de la conférence que je trouve vraiment le fun, c'est qu'on a en fait plusieurs de nos anciens invités qui vont être présents à l'événement Bible XXX, dont Jean-Christophe Jasmin, qui est un de nos grands habitués du podcast « J'ai des questions ». Alors, venez faire un tour, venez rencontrer aussi nos anciens invités qui vont être là pour nous parler cette journée-là.
Voilà.
Bravo, bravo. Moi, je vous félicite.
Alors là, aujourd'hui, on voulait parler de solitude. En réfléchissant à la solitude, je me rends compte qu'il y a plein de différentes, je pense, expressions de la solitude ou expériences de la solitude. J'en parlais autour de moi, puis je me rendais compte qu'on avait un peu tous des définitions, puis des, tu sais, comme des vécus différents par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Élie, Corentin? Quand vous pensez à la solitude, à quoi est-ce que vous pensez?
La solitude, ben moi, j'ai plutôt un réflexe de penser un côté positif et un côté négatif. Je pense qu'on en parle souvent d'un point de vue négatif, parce qu'on ne sait pas comment dealer avec ça correctement, je dirais. Et aussi, il y a plusieurs effets que plusieurs subissent du côté négatif, qui fait que c'est dur de voir le côté positif quand même la Bible parle. Envers la solitude. Donc, il y a vraiment deux côtés de la médaille par rapport à cet effet-là. Mais c'est clairement un enjeu qu'on parle, que plusieurs vivent. Donc, je suis vraiment content d'être avec vous dans ce podcast-là pour en discuter en détail.
Yes. Ouais, moi, je pense que j'irais aussi dans le même sens que toi, Corentin. C'est comme, je sais que quand on parle de la solitude, quand on parle à l'Assemblée nationale du Québec de l'épidémie de solitude, qui fait des ravages au Québec, c'est très négatif et c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des effets négatifs à ça. C'est un phénomène qui est moderne, vraiment, puis on ne sait pas trop comment gérer ça encore en société ou même individuellement parlant. Cependant, je ne sais pas à quel point on peut avoir une vie spirituelle si on a zéro solitude. Donc, il y a aussi des bienfaits. Il y a aussi quelque part un prérequis biblique et spirituel de un peu Jésus qui s'éloigne des autres et qui va se retirer et prier et prendre du temps avec son Père pour un cœur à cœur. Donc, je ne sais pas à quel point, si on avait 0 solitude dans notre vie, je pense que notre vie spirituelle serait hypothéquée. Donc, il y a aussi un côté quand même assez bien. Peut-être on n'y pense pas assez ou on ne réalise pas que c'est une situation, une bonne situation en fait.
Comme vous avez dit, là, il y a des belles choses qui peuvent venir d'être seul. C'est une opportunité, mais des fois, on a besoin de connexion, puis là, on la vit pas, puis là, on se sent seul. On se sent, en fait, pas juste seul par choix ou parce que c'est bien, mais on vit de la solitude. Puis là, c'est comme pas voulu toujours. Puis je pense que c'est là où, tu sais, des fois, j'entends beaucoup de souffrance quand les gens me disent « je vis de la solitude ». C'est rare qu'on me dise ça, puis que c'est genre le gros sourire au visage, genre « hey, je vis de la solitude, j'ai beaucoup de temps avec le Seigneur ». Puis et ça, c'est très bon. Puis je pense qu'on peut, tu sais, comme... On en a parlé un peu, je veux dire, des fois, le Seigneur nous demande d'utiliser la solitude pour prendre du temps avec lui, se tourner vers lui. Mais à un moment donné, on a quand même besoin de se sentir comme connecté. L'importance de vivre en communauté, c'est aussi très biblique, là. La Bible, tu sais, je pense qu'elle a les deux en tension. Il y a une partie que c'est comme Jésus qui se retire, il veut prendre du temps avec son Père, tu sais, puis en solitude, dans la prière, mais il y a aussi des temps où il était entouré de foule, où il y avait des amis proches. La communauté semble être comme un élément important dans la Bible, puis si on ne la vit pas, on la vit difficilement, ça peut être très souffrant.
Ouais, puis je pense qu'au tout début, on l'a un peu mentionné qu'il y a plein de raisons pourquoi on peut être seul. Puis je pense que l'application, le quoi faire, va vraiment varier dépendamment de c'est quelle forme de solitude qu'on vit.
Mm-hmm.
Je sais pas si Corentin, tu es d'accord avec moi ou comme peut-être qu'on peut adresser ça justement, qu'on peut aborder ce sujet-là. Comme mettons qu'on a une personne qui est comme qui vit seule. Parce que cette personne-là n'arrive pas à être elle-même dans ses relations. Parce que peut-être qu'elle ne se sent pas comprise, peut-être qu'il y a une trop grande barrière de culture, différence de culture, peu importe. Peut-être qu'il y a des difficultés au niveau de la langue. Qu'est-ce qu'elle peut faire, cette personne-là? Comme c'est quoi que... Qu'est-ce que la Bible? Comment est-ce que l'Évangile peut l'aider, cette personne-là, par exemple?
Yes, ben je pense que c'est... Moi, j'aime bien avoir l'image de le frame... création, chute, rédemption et restauration. Je pense que ça peut s'appliquer même dans cette situation-là de découvrir vraiment comment Dieu nous a créés, c'est quoi les conséquences aussi de la chute dans nos vies, c'est quoi nos blessures, c'est quoi nos tendances moins alignées sur la volonté de Dieu, l'état de notre cœur. Et ça prend la communauté pour le révéler aussi, ça prend d'être confronté à l'Évangile régulièrement, l'entendre, le lire. Et après, c'est la rédemption, donc c'est comment prendre ce chemin de rédemption-là. Et je pense que la communauté nous guide vers là, parce qu'il y a des gens qui vont parler comme des prophètes dans nos vies, qui vont nous nommer des choses, parfois avec amour, parfois avec maladresse. Il y a des gens qui vont avoir une figure de prêtre, qui vont être là, qui vont écouter, qui vont intercéder, qui vont prendre soin. Ils vont avoir une figure plus un peu de roi, si on regarde dans l'Ancien Testament, qui vont nous appeler à prendre position face à la souffrance peut-être qu'on peut vivre. Et la bonne nouvelle, c'est que Christ nous appelle à être restaurés, à réparer ce qui est brisé, à avoir la vie là où il y a la mort. Et je crois que la première chose, c'est de se rapprocher de l'Évangile, d'aller dans la prière, d'aller chercher la face de Dieu, et après de trouver une communauté où pas nécessairement qu'on a notre place encore, mais où il y a quelqu'un qui me regarde et qui m'écoute. Parce que c'est pas pareil. Moi, je pense que quand quelqu'un a sa place dans une communauté, c'est pas juste qu'il est écouté et vu, mais qu'il contribue, qu'il fait partie de cette communauté-là. Et pas que quand il est absent, ce soit le leader qui se pose la question, mais que tout le monde le remarque. Parce que cette personne-là amène quelque chose, et là, elle n'est pas là, donc on manque une saveur différente de la communauté. Donc je l'amènerai vraiment comme ça, parce que je crois qu'il y a plusieurs personnes qui pensent qu'il faut à tout prix qu'ils trouvent leur place tout de suite, donc ils sont rapidement blessés, rapidement découragés, mais ça prend du temps de trouver sa place.
C'est vrai que ça prend du temps, puis alors que je t'écoute, Corentin... Il y a deux choses qui me viennent en tête. D'abord, c'est la réalisation que bien souvent, trop souvent, quand on se dit « j'ai besoin de communauté, j'ai besoin d'amis, j'ai besoin d'avoir ma place à quelque part », j'ai l'impression, ça c'est une intuition, si je regarde à ma vie, mais si je regarde aussi à comment ce que plusieurs jeunes adultes, étudiants vont un peu naviguer ce défi-là, j'ai l'impression qu'on a tendance à voir les communautés comme... un peu n'importe quel autre produit sur le marché. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a pour moi dans ça? Qu'est-ce que j'ai à recevoir de ça? Puis si je ne suis pas heureux, heureuse ici, eh bien, je vais aller me trouver un meilleur deal ailleurs. Donc, j'ai l'impression que des fois, c'est un peu comme ça qu'on pense. C'est notre consumérisme qui déteint sur notre façon de vivre en communauté. Donc, c'est la première chose que j'observe dans ce que tu viens de me dire. La deuxième, c'est juste de... Peut-être c'est une antidote partielle à ce que je viens juste de dire, mais c'est l'idée d'être actif. Que la communauté, c'est pas un état où on fait juste recevoir ça, mais c'est quelque chose dans lequel on participe. Donc c'est... À quelque part, on contribue, ça se bâtit, ça se crée. Donc, c'est la deuxième chose que je remarque de ce que tu viens de nous dire, Corentin, que je trouve vraiment beau et profond.
Yes, merci. Merci.
Un compliment, hey, ça se prend bien.
Ouais, je pense que ça mérite même un peu d'applaudissement pour moi. Laurent, on fera un autre podcast sur l'orgueil. Je serai le sujet, mais je ne serai pas l'invité. Mais non, je trouve... puis j'aime ce que tu expliquais, les deux options, puis... la consommation, c'est vrai. Puis on l'a dans nos relations. C'est pour ça aussi qu'on dit souvent avec des jeunes adultes chrétiens qui magasinent des églises sans arrêt et qui ne sont pas investis. Ouais, plusieurs pasteurs que je parle, je sais pas si vous le saviez, les Gen Z, on n'est pas très réputés pour être les meilleurs pour eux. comment je peux l'intéresser, comment je peux l'amener dans mon église de s'investir, puis pas aller dans telle église ou dans tel endroit, mais finalement il s'investit pas. Mais je pense que c'est l'engagement. Puis l'engagement va petit à petit changer la solitude qu'on vit. Moi j'avais quelqu'un dans mon groupe de quartier il y a quelques temps qui venait plus ou moins. Et en est, je l'ai. Puis il vivait cette solitude là. Puis je l'ai challengé. J'ai dit, écoute, pour moi tu vas continuer à la vivre cette solitude là. Puis tu la trouveras pas. Ta communauté, tu trouveras pas qui tu es parce que bah t'es juste là quand ça te convient. Je suis disponible, je suis pas trop fatigué, je vais être là ce soir. Mais je te vois pas le dimanche. Je te vois pas t'asseoir avec nous le dimanche quand tu viens. Je te vois pas t'engager dans ce que les gens disent. Je dis, alors si tu t'intéresses pas aux autres, si tu t'intéresses pas à la mission qu'on participe, pourquoi nous on a choisi telle église? Pourquoi on est là? Mais si sûr, tu vas continuer à être seul, puis être un fantôme en fait, qu'on va pas remarquer même parfois, qui sera pas là. Puis veux pas, bah, ça serait en partie ta responsabilité. Parce que quand une église, c'est un engagement. On choisit de participer à une mission. Telle église a telle saveur et je veux y participer. Je veux participer au royaume de Dieu avec ces gens-là. Et c'est un choix. Et on va magasiner tellement, on va faire telle et telle église, tel et tel groupe d'étudiants, d'associations chrétiennes et autres. Puis finalement, on n'aura jamais choisi parce qu'on le voit justement d'un point de vue de consommation. Et c'est là le problème. Parce que quand on prend consommation, on tombe dans la critique très rapidement. Et on pardonne moins facilement les maladresses des gens. Et on se pardonne moins aussi. Donc on se met une double pression. Et c'est là où je pense qu'on a beaucoup qui vivent cette solitude-là. Parce qu'on doit repenser, c'est quoi notre vision de la communauté? Et la vision de la communauté pour moi, c'est je rentre dans la salle et j'essaie de m'imprégner de l'atmosphère, de la présence. Et de me dire, je vais devoir revenir à plusieurs reprises pour petit à petit faire partie de cette présence-là. Et y contribuer aussi. Mais ça demande beaucoup de chemin. Et les gens qui nous écoutent, j'aimerais dire, t'es peut-être pas encore rendu là, et c'est correct.
C'est beau. Moi, je me rappelle avoir été convaincue il y a une couple d'années. J'étais un peu plus vieille, là, fait que c'était pas par rapport au groupe de jeunesse, mais c'était par rapport à mon quartier. Je me rendais compte que je déménageais tellement souvent que j'avais juste pas le temps, tu sais, d'avoir des bonnes relations. Tu sais, j'arrivais dans un quartier, puis je me disais, après 6 mois, ben là, je devrais, avoir des bonnes conversations avec mes voisins et tout ça. Mais je me rendais compte que ça peut prendre du temps, justement, d'être dans la vie des autres, de s'ouvrir. Et il faut qu'on s'engage à être stable. On peut pas toujours un peu blâmer la communauté dans laquelle on se trouve pour notre solitude si nous, on n'est pas présents régulièrement puis que les gens ne nous connaissent pas parce que on n'est pas là souvent ou on se présente pas. Si on reste dans notre coin, tu sais, puis on se laisse pas connaître, on a une part de responsabilité là-dedans. Mais, par exemple, est-ce que c'est possible des fois que c'est pas nous le problème? Tu sais, je veux dire, des fois je me lance, moi ben ça m'est déjà arrivé là, que je suis arrivée là, puis que dans une église, puis que je voulais me faire des amis là, tu sais, j'étais comme je me sens seule, je me lance, puis je me présentais aux gens là, j'allais vers eux, puis c'était dur, puis c'est embarrassant, tu sais, t'arrives, t'es comme allô, moi c'est Christina, puis que la personne, tu sais, était comme oh, salut, puis que c'était genre rien là.
J'ai pas l'effet sonore triste, mais je partage le sentiment.
Fait comment est-ce que vous faites le tri? Tu sais, on a une part de responsabilité là-dedans, mais c'est quand qu'on peut se dire non, tu sais quoi, j'ai vraiment essayé. puis ce groupe-là, je sais pas, là, mais je me sens seule, même entourée. Tu sais, je suis avec eux, mais c'est comme si je fais pas partie de la gang. Puis là, ça vaut la peine. On veut éviter le consumerisme, mais des fois, ça vaut la peine quand même de se dire « j'ai pas ma place ici ».
J'aime tellement ta question, Christina. C'est comme, on vient juste d'aborder « bon, je me sens seule, mais je suis passif. Je fais pas beaucoup d'efforts, peut-être. » Mais là, on va à l'autre extrême. Je me sens seule et je fais beaucoup d'efforts, je suis actif. Je comprends pas c'est quoi le problème. J'aime tellement ta question parce que je pense que ça arrive... C'est assez fréquent. Ça peut être fréquent, malheureusement, aussi, dépendamment des situations dans lesquelles on vit.
Yes. J'aimerais rassurer la personne que, c'est normal. Ça arrive. Parfois, c'est pas juste que les gens n'ont pas compris l'évangile, c'est juste les circonstances. Parfois, c'est les caractères qui ont vraiment du mal. Mais j'encourage la personne à aller dans la prière, à discerner. Dieu, est-ce que tu m'appelles à persévérer? Tu vas changer les cœurs de certaines personnes dans cette communauté-là. Ou tu m'appelles à juste trouver une autre communauté. Mais c'est vraiment encore relié avec l'engagement. Est-ce que je ressens que j'ai une mission avec cette communauté-là ou non? Et je pense que Dieu va pourvoir. Et aux gens qui écoutent, qui réalisent « Oh merde, moi j'ai été cette personne-là qui n'a pas accueilli l'autre qui est différent de moi. » Mais il n'est jamais trop tard pour laisser la place aux autres. Je ne pense pas qu'on devrait tout le temps chercher un profil type, même dans le leadership de prédicateur, de conseiller, d'aumônier, pareil de médecin et autres. Donc l'Église est faite pour les humains brisés, qui veulent être restaurés par Jésus. Donc on doit les accueillir aux bras ouverts. Et si on vit dans une communauté où c'est difficile, on peut très bien aussi aller chercher conseil ailleurs, du discernement. Contacter quelqu'un, même qu'on ne connaît pas, faire un pas de foi, écrire aux gens qui ont... J'ai des questions, puis je suis sûr qu'ils vont te répondre, peur de changer. Ou à d'autres personnes que tu connais, qui vont juste t'écouter, porter conseil, t'encourager. Car je pense que c'est ça aussi. Souvent, on vit ça, on se sent seul, on est triste. Non, c'est dur de vivre notre foi quand on est dans une position comme ça. Je suis sûr que c'est ça que tu as vécu. Et là, on a besoin justement de quelqu'un qui peut nous encourager ou nous dire non, sors de là, tu vas mourir en restant là. Et ça demande des conseillers, donc ça demande un autre pas de foi. Puis je sais que c'est difficile pour la personne qui nous écoute parce qu'il a déjà, ou elle a déjà fait ce pas de foi là dans les autres communautés et n'a pas été reçue.
Ouais.
Je comprends, j'entends le défi.
Une des choses que j'entends dans ce que tu viens de dire, Corentin, aussi, c'est dans le fond, l'Évangile fait de nous une communauté ouverte. Puis c'est aussi de revenir à l'idée qu'en Jésus, on est amené dans le cercle intime de la Trinité. On fait partie de la gang. On est vraiment accepté, on est reçu, on est chez nous. Puis une communauté qui s'approprie de plus en plus l'Évangile va vivre comme si c'était vrai. Ça va paraître dans leur relation. Et tout en étant conscient que c'est quand même un... Quelque part, ça s'apprend. Ça s'apprend d'avoir une posture d'accueil et d'avoir une posture où je ne fais pas juste regarder à mes besoins, à moi. Parce que quelque part, une communauté qui n'est pas accueillante, c'est une communauté qui pense avoir déjà tout ce qu'elle a de besoin.
Exact. Autosuffisante.
C'est ça. Et à quelque part, c'est une communauté qui a oublié que ce n'est pas vrai, en fait. Et que justement, la nouvelle personne qui arrive... Elle apporte tellement de richesse à cette communauté-là. Ça m'est arrivé tellement de fois. Même si le principe, j'ai étudié un petit peu en ressources humaines il y a fort longtemps. Et c'est pour ça qu'on va engager. Des fois, on va recruter à partir à l'extérieur de l'organisation parce qu'on ne veut pas ça. On veut du nouveau sang, on veut des nouvelles idées, on veut de l'expérience qui... On ne veut pas juste une secte. Là, j'ai dit ça en joke. OK, prenez pas ce que je dis pour du cash. Mais, tu sais, on veut d'autres perspectives. On veut être enrichi. Et ça peut seulement venir de l'extérieur. Et aussi, la deuxième chose qui a été oubliée, c'est le fait que en Jésus, nous sommes un seul corps. Et ce corps-là n'est pas juste limité à l'église locale. Mon frère et ma sœur, qui dans une autre église, est mon frère ou ma sœur. À quelque part, on oublie que c'est aussi vrai, cette réalité-là.
J'ajouterais aussi, plusieurs penseurs disent que l'être humain naît seul et meurt seul. Je suis plus ou moins d'accord avec ça. Puis Bonhoeffer est du même avis que moi. Il explique un peu que... Moi, je me trompe, mais je suis sûr que c'est Bonhoeffer. Donc, vous vérifierez, vous faites vos recherches, les étudiants qui nous écoutent.
Dis-la, je vais peut-être t'aider.
Ouais, il nous explique que... Bon, on est tous condamnés à mort, puis on va tous mourir un jour. Chacun, face à la mort, on peut croire qu'on est seul. Je le mets dans mes mots, là, la pensée de Bonhoeffer. Si je dois mourir, je ne suis pas seul. Si je souffre, je ne suis pas seul, car j'ai Christ avec moi et j'ai la communauté aussi avec moi qui souffre avec moi. Si je ne me trompe pas, c'est dans son livre la communauté. Quoi, c'est Life Together en anglais, c'est en français, c'est la vie communautaire, je pense.
Oui, de la vie communautaire, quelque chose comme ça.
Ouais. Mais je trouve ça intéressant, surtout quelqu'un comme Bonhoeffer qui est mort, condamné à mort dans la Deuxième Guerre mondiale, qui a vécu cet effet-là, la communauté, la souffrance aussi. Mais c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui vivent la souffrance, qui vivent le miracle de la communauté. Je pense que Dieu fait des miracles. C'est ma position théologique, il fait des miracles encore, il nous parle encore, il a encore des dons, selon moi, qui sont actifs. Mais également, je pense que l'un des plus grands miracles, c'est l'Église. Parce que l'Église, elle est parfois, va être la voix qu'on essaie d'entendre de Dieu quand on a un silence. Et toi, tu es peut-être seul, parce que ce podcast-là, tu vois en ce moment plutôt comme une mauvaise nouvelle, cette solitude-là. Mais justement, moi, j'aimerais t'encourager à faire un pas de foi. Aller chercher quelqu'un comme Dieli, qui fait partie de l'Église avec un grand E, qui va peut-être être là. Dieu va peut-être parler à travers lui, puis répondre à ton cri, à ton cœur, qui désire quelque chose de plus en ce moment dans ta vie. Et d'oser la communauté, d'oser de faire ce pas de foi-là, puis aux gens qui écoutent, qui ont une communauté, d'oser d'accueillir les autres. On a tellement à gagner d'écouter des histoires. Nous, dernièrement, depuis un an, en fait, dans mon groupe, on fait, de temps en temps, on demande à quelqu'un de partager son témoignage. Waouh! Là, on réalise à quel point on est tous différents. Mais à quel point on a chacun un chemin de foi différent qui mène tous à Jésus. Et parfois, juste entendre l'autre me fait réaliser finalement que oh, ma crise n'est pas si pire que ça. ou oh, lui, il va pouvoir m'aider à comprendre mieux ce que je vis. Donc, il y a vraiment une belle richesse. Puis je crois que souvent, le point de vue consommation qu'on pourrait avoir ou la peur d'eux peut nous piéger. Mais là aussi, on a du travail personnel à faire sur nous-mêmes. Parce qu'on a été blessé par des relations, on a appris à ne pas faire confiance. On a tellement été habitué à être seul qu'on ne sait plus comment s'ouvrir. Et là, après, on a du mal parce que peut-être un jeune adulte qui écoute, puis t'es comme, hey, j'aimerais rencontrer quelqu'un, j'aimerais être avec quelqu'un plus tard, j'aimerais me marier ou j'aimerais juste développer des amitiés profondes, puis en ce moment, ça ne marche pas. Puis même dernièrement, ce matin, je recevais un courriel là, d'un organisme qui faisait des études sur la Gen Z, puis il parlait que dans un rapport qui vient de sortir, que sur 15 000 personnes qu'ils ont sondées de la génération Z, 90% d'entre eux disent qu'ils veulent trouver l'amour et 56% d'entre eux vont dire qu'ils ont peur qu'ils vont être rejetés et donc être seuls. Et je trouve ça intéressant parce que c'est, je pense que dans la plupart d'entre nous, on a tellement une mauvaise estime de soi. Et je crois que c'est, on doit redécouvrir l'évangile aussi, puis comment Dieu nous répare. Parce que c'est vrai, on a des choses vraiment laides, mais on a aussi des choses qui sont belles, puis que Dieu veut rendre belles et que les autres ont à gagner à découvrir. Ouais.
J'aimerais dire amen à ça.
Oui. La peur d'être rejeté, c'est quelque chose de comme énorme hein, dans nos vies. Surtout si on a été rejeté dans le passé, tu sais. La majorité d'entre nous, on a vécu ça, là. Puis on s'en rappelle. On s'en rappelle à chaque fois, là, qu'on a à se présenter ou qu'on essaie d'intégrer un nouveau groupe. Puis j'aime ça comment que les deux vous avez mentionné que c'est comme un pas de foi. C'est un pas de foi d'aller vers l'autre, de s'ouvrir. Parce que, oui, l'Église, c'est un miracle. Oui, les communautés qui reflètent l'Évangile, c'est comme incroyable, mais on n'est pas toujours encore là, là. T'sais, c'est encore un risque pour l'instant sur cette terre de prendre ce risque-là, ce pas-là vers l'autre. Puis je pense qu'elle vaut la peine. Même si peut-être qu'on va être rejeté, je pense qu'elle vaut la peine. Elle vaut la peine parce que si la personne... Je ne sais pas comment l'expliquer pourquoi elle vaut la peine, mais c'est comme si la personne elle accepte. Tu sais, comme un peu notre effort d'ouverture, ça va être super riche puis beau. Puis je pense aussi qu'on peut faire confiance en tout ça, que Dieu va s'occuper de nous. Je pense qu'au final, c'est ça que j'ai le plus... à cœur, tu sais, en vous entendant, c'est que oui, je risque le rejet quand je m'ouvre à quelqu'un. Surtout quelqu'un que je connais pas bien ou quelqu'un qui semble différent de moi. Tu sais, je me dis, ah, cette personne-là, je le risque. C'est un risque réel, là. Mais en même temps, tu sais, de se rappeler que, bon, premièrement, mon identité est en Christ. Fait que même si je me fais rejeter, c'est pas la fin du monde parce que c'est pas l'opinion de l'autre qui compte.
Et Jésus nous comprend.
Ouais,
Jésus aussi s'est fait rejeter. Mais l'Église aussi. Donc, la personne n'est pas réellement seule dans la façon qu'elle ressent la situation. Puis la solitude crée de l'espace. Parfois, c'est bon. Parfois, trop d'espace, c'est anxiogène. Mais la première attitude que tout chrétien devrait avoir, justement, c'est l'attitude de prière. et demander à Dieu de venir combler cet espace-là, peut-être qui nous rend malheureux, qui nous rend anxieux, qui nous amène à ne pas être prêts à s'ouvrir aux autres. Et Dieu peut encore faire du miracle. Puis il va en faire pour les gens qui nous écoutent, qui vivent ça. Puis il faut aussi apprendre que là, un rythme, il y a des saisons de vie. Si tu fais, j'ai un gars que je connais qui fait un doctorat en. Je ne sais plus le terme, mais bref, dans le domaine de la science. Et. ouais, je ne veux pas dire n'importe quoi. J'ai déjà cité Bonhoeffer sans savoir exactement si je l'avais bien cité, donc je ne vais pas m'aventurer plus dans les citations un peu floues, mais. Ce gars-là, en ce moment, bah, c'est intense son mode de vie. Il a très peu de temps. Ah oui, il se sent seul. Mais en même temps, il le sait, parce qu'il a pris l'engagement d'aller dans ce PhD-là, avec ces conditions-là. Donc, puis je trouve qu'il a quand même été bon pour, il est quand même bon pour manager ça. Bon, il s'est dit, bon, bah, mercredi soir, c'est pour ma communauté. Puis peu importe, même crevé, j'y serai. Mais le reste du temps, après, on en parle souvent. Il souffre de cette solitude-là, mais c'est une solitude qu'il a choisie. En conséquence, depuis, la fin, c'est ça aussi à savoir, est-ce que je l'ai choisi ou je l'ai subi?
Ouais.
Parce que c'est plus facile de choisir quelque chose, de dire, ben, je connais les sacrifices, je suis prêt à les payer pour X nombre de mois, X nombre d'années, et sinon, je l'ai subi à cause des blessures de mon passé, à cause de défis personnels que j'ai. On a plusieurs études, là, des gens qui sont seuls, qui vont se dire, bon, ben, partout où je vais aller, je vais être très ouvert, puis je vais être assez raw, assez cru avec les gens, puis après, pas comprendre pourquoi les gens, ils trouvent ça bizarre. Là aussi, une balance à avoir, faut être équilibré parce que là, ça reste qu'on, dans toute activité sociale, là, des normes, mais c'est ça. Donc, là vraiment ce défi là, mais après, faut se rappeler que Jésus aussi prenait des temps seul. Et moi, je sais pas, c'est à quel moment dans le podcast tu veux qu'on aille dans ce côté là, mais j'ai une histoire que j'aimerais compter par rapport à ça, puis même aller un peu dans la parole. Comment Jésus justement vit cette solitude-là, une solitude qui tourne de façon qui devient une force.
Je suis ouverte.
Oui, vas-y fort.
Je vais prendre mon verre d'eau alors. Attendant, je peux vous mettre. On va mettre un cheering. J'ai bien fait de pas me tromper parce que j'ai failli appuyer sur gunshot. Ça aurait été un peu bizarre. Pour nos auditeurs, vous inquiétez pas. Je me retiens. Les filles m'ont averti. Ils vont, sinon on va couper des extraits. Donc, ben moi, dans Matthieu 14, au verset 22, après que Jésus fait un miracle, il est avec la foule, il nourrit 5000 hommes. Ça dit, aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque. Moi, j'aime qu'il les a obligés. Hé, les gars, ce serait bien, on va là. Non, vous êtes obligés, vous partez sur la barque, on laisse la foule vous embarquer. Donc, je suis sûr qu'ils devaient être contents. Les introvertis dans les disciples devaient être là. Alléluia. Puis les extravertis devaient être. Non, je. On continue les miracles, Jésus. Let's go. Là. On fait d'autres pains, puis d'autres poissons. Donc, ils ont dans la barque et à passer de l'autre côté. Puis en attendant, Jésus renvoie la foule. Donc, parfois aussi, c'est correct de renvoyer la foule dans nos vies. C'est correct de mettre nos limites. C'est pas tout le temps rude de mettre les gens dehors de chez toi à 9h le soir si demain t'as des choses prioritaires. Moi j'ai une amie, elle avait un truc à se brosser les dents. Quand ça se brossait les dents, tout le monde comprenait qu'il fallait qu'on parte. Pour développer des trucs. Mais je trouve ça intéressant que Jésus force ses disciples à partir. Donc ils sont pas seuls, mais ils sont quand même un peu plus seuls quand même. Peut-être seuls aussi avec leurs différences, où ils s'entendent peut-être moins. C'est plus facile d'être dans une grande foule avec des. Puis, parce que bah, tu es sûr que tu vas finir peut-être par trouver quelqu'un qui fit avec toi, mais là, tu es un peu plus seul dans un petit groupe sur une barque. Là, tu dis encore plus la communauté. Tu es pogné avec eux. Puis, voyant les disciples, ils avaient peur de marcher sur l'eau, ils ont peur peut-être de nager aussi. Donc, tu es pogné sur la barque. Et renvoie la foule, Jésus. Et ça dit, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. Et je trouve ça intéressant que Jésus est seul. Sur avec le Père. Et pendant ce temps-là, on a la barque qui est au milieu de la mer. Elle est battue par les flots car le vent était contraire. Et donc Jésus prend un temps de ressourcement et pendant ce temps-là, les disciples vivent leur frayeur. Donc, où je veux en venir avec ça, c'est qu'on voit que Dieu nous encourage à prendre des temps où on va renvoyer la foule avant l'effet des miracles. Donc ça veut dire pour pas être anti-foule, un temps en communauté, et que parfois Dieu va nous laisser dans la tempête pendant un certain temps et venir nous rejoindre. Il y en a, ils sont dans la tempête de la solitude, ils sont sur la montagne depuis peut-être trop longtemps, ils ne savent plus comment redescendre. Et il y en a, ils sont pris sur une barque avec des gens qu'ils aimeraient pouvoir pousser de la barque. C'est moi qui interprète un peu plus le texte là, mais ça reste quand même que c'est un peu ça qui se passe. Et Jésus prend ce temps solitaire et après vient et fait un miracle, il marche sur l'eau, Pierre marche sur l'eau avec lui, Pierre tombe, Jésus le relève. Elle dit, waouh, ok, ce gars-là qu'on suit est vraiment quelque chose. Mais c'est encore un message pour nous aujourd'hui. Je pense que Dieu nous appelle justement à être dans la foule, à faire des miracles, à parfois renvoyer la foule, à monter sur la montagne, à prier, et parfois être sur une barque avec d'autres personnes qu'on n'a rien en commun à part l'évangile, et ensemble traverser une tempête. Mmh. Et ne pas être capable de s'en sortir sans la puissance de Jésus qui vient. Donc, il y a vraiment des éléments, puis il faut saisir où on est rendu. Moi, là, j'ai un ami à moi, ça fait 2 ans qu'il s'est vraiment reconsacré à Dieu. Ce qu'il avait vécu, c'est qu'il s'est éloigné beaucoup et ça l'est rend pendant sa vie. Puis la Covid l'a aidé à être seul à cause des isolements sociaux. Mais ça l'a confronté avec lui. Puis il vivait trop d'espace de solitude. Donc là, ça crée de l'anxiété, ça crée un peu de la dépression. Vraiment pas bien que lui-même, mais il réalisait, ma vie va nulle part. Et en parlant avec ses parents, etc., il s'est dit, je vais me réserver. Ce gars-là, c'est un extraverti. Je vais me réserver un temps tout seul. Je pense qu'il s'est pris un 10 jours tout seul dans une petite cabane dans les bois, je ne sais où, mais dans ce que j'appellerais un trou perdu avec toute affection. Et il va aller là-bas, et par réflexe, il va prendre sa Bible, parce qu'il a grandi dans l'église, il dit, c'est bien le livre que je connais, je prends ma Bible avec moi, puis c'est pris aussi un livre d'apologétique. Puis il s'était dit un peu, Dieu, je te donne une dernière chance. Et ce gars-là qui est extraverti, qui a peur d'être seul, moi je le comprends, je suis pareil, il part là-bas et dans ces 10 jours-là, il a vécu une nouvelle naissance. Il a vécu une reconsécration. Il a été tellement touché. La seule chose qu'il faisait, c'était être seul avec son Dieu. Et pas seul juste avec ses inquiétudes. Son inquiétude était là, mais son Dieu est venu le chercher. Et pas d'une façon tonnerre ou autre, mais un peu comme quand Élie va sur la montagne, puis demande à Dieu, puis Dieu se révèle avec le calme, le murmure du vent. C'est un peu ça que mon ami a vécu, avec son temps dans la parole, seul. Et moi, dans mon expérience aussi, je l'ai vécu. Bon, comme j'ai dit, j'aime pas être seul. Donc moi, je prends le chien de mes parents. Je vais me promener avec lui. Vous voyez, je suis pas encore rendu au stade d'être complètement seul. Je travaille là-dessus. Donc j'ai le berger australien avec moi, on marche. Mais ça m'aide énormément. C'est mes temps seul avec mon Dieu et le chien à côté. Parfois, tu fais des distractions, tu es un écureuil. Mais ça me nourrit énormément, même moi qui est extraverti, qui pourtant va puiser mon énergie dans les gens. Et ça m'aide à trouver un calme. Et comme parfois aussi, j'ai besoin d'appeler quelqu'un et de déverser tout. Parce que faut que juste que mon cœur se déverse, parce que je suis trop agité et je suis dans une tempête et j'ai besoin que quelqu'un vienne me rencontrer. Donc, je trouve que Jésus, juste avec ce passage-là, nous montre vraiment une attitude à avoir dans comment on gère la vie en communauté, la solitude, et de ne pas en avoir peur, et de savoir que notre Dieu vient à notre rencontre, peu importe l'épreuve qu'on a en ce moment, et peu importe dans la communauté dans laquelle il nous a appelés à monter dans la barque avec.
J'aime tellement que tu as mentionné aussi un peu plus, dans ton illustration, l'histoire d'Élie. Parce que ça, c'est une histoire qui est très chère à mon cœur. J'ai vécu un sentiment de solitude différente. Je réalisais que c'était beaucoup relié au ministère, que je vivais beaucoup de solitude, puis je me posais des questions par rapport à ça. Puis j'étais à la maîtrise et aussi dans un séminaire chrétien, et justement, je devais appliquer une théologie quelconque, ce qu'on a vu dans nos cours, à ma situation. Puis j'ai décidé de le faire par rapport à la solitude que je vivais. Puis la souffrance que j'expérimentais, puis le texte que j'ai choisi d'étudier en profondeur pour répondre à ce vécu-là, qui était le mien, c'était le texte de 1 roi au chapitre 19 avec Élie. Très, très riche comme texte. À ceux qui écoutent, j'encouragerais vraiment le fait de prendre son temps avec ce texte-là. J'ai remarqué beaucoup de choses. Et ce qui m'a parlé, il y a plusieurs choses qui m'ont parlé sur le texte. Donc, si vous ne connaissez pas vraiment qu'est-ce qui se passe dans ce texte-là, Corentin l'a mentionné il y a juste quelques instants. Donc, tu as le prophète Élie, qui est un prophète vraiment important dans l'Ancien Testament, qui lui, dans le fond, écoute, il vit comme une espèce, il est sur une montagne, il remporte un genre de concours de popularité de Dieu, où il y a Dieu qui répond à sa prière et le feu descend et finalement, les autres idolateurs, écoute, sont battus à plat de couture. Puis là, Élie, dans son cœur, il veut juste que tout l'ensemble du peuple d'Israël revienne à Dieu. Puis là, finalement, next thing you know, il y a comme la reine qui lui dit « Écoute, demain matin, je te tue » ou quelque chose du genre. Puis lui, il s'enfuit. Mais c'est pas tant la peur d'être tué qui le terrasse, c'est juste qu'il est tellement déçu. Il pensait tellement que Dieu allait tout changer à travers cette situation-là. Puis là, il répète, quand que Dieu le rencontre, écoute, c'est un gros résumé parce qu'il s'en passe des choses dans ce texte-là. Finalement, Dieu le rencontre dans une caverne. Puis Dieu lui dit, « Ben, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? » Puis là, il y a comme une espèce de script qui va dire deux fois. dans le fond, justement, j'ai le texte ouvert, je suis en train d'aller le chercher, là. « J'ai défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes, et je suis le seul qui reste. » Il répète ça deux fois. Puis Dieu, j'ai remarqué trois choses par rapport à ce que Dieu vient faire pour le rencontrer. Parce que Dieu, il est comme, il prend soin d'Élie. Donc oui, on peut se dire, ah ouais, fais un effort, t'es capable. Mais des fois, on a tellement de la tristesse, on a tellement de la souffrance, on a juste besoin que Dieu vienne nous rencontrer. Puis Dieu, il fait trois choses dans sa réponse. Il lui rappelle qu'il n'est pas seul, assez littéralement. Et Élie est au courant, c'est juste qu'il choisit de ne pas... De ne pas vraiment prêter attention à ce fait-là. Il le sait qu'il y a d'autres chrétiens solides. C'est mentionné un chapitre plus tôt. Il le sait, il le comptabilise juste pas. Ensuite, ce que Dieu va faire, c'est qu'il va vraiment lui faire expérimenter sa puissance, ce qu'il est en tant que Dieu, mais il le fait pas dans les miracles, dans le sensationnel, dans le feu qui descend du ciel. Il le fait maintenant dans le murmure. Puis troisième chose qui se passe, c'est qu'il l'amène à aller vers les autres. Il lui donne une mission. Il dit, écoute, va voir tel roi, tu vas le oindre. Puis je t'envoie quelqu'un. Puis là, ce quelqu'un-là, c'est Élisée, qui devient un peu comme son fils. Parce que plus tard dans le texte, quand Élie va au ciel, justement, dans le chariot de feu épique, scène épique en passant, puis Élisée est comme, mon père. Donc, c'était peut-être pas la communauté à laquelle Élie s'attendait, mais Dieu a pris soin d'Élie quand même. Donc, c'est vraiment, je vous encourage, guys, de lire ce passage-là et de lire aussi le passage que Corentin a cité. Peux-tu nous rappeler la référence, juste pour ceux?
C'était dans Matthieu 14 que j'ai cité. Okay. Donc, Matthieu 14, du verset 22 jusqu'à, en gros, 25. Hein. Lisez Matthieu 14 en entier parce que vous verrez les miracles que Jésus fait avec la foule. Travail, Jésus qui va seul, la barque, l'épreuve, Jésus qui revient à la rencontre. Donc, mais moi, en fait, Élie, je trouve ça vraiment bon ce que tu partages parce que dernièrement, j'en parlais avec des amis pasteurs à moi de ce passage-là. Et on parlait de Jonas aussi. Parce que un truc qui est intéressant, c'est que Élie, dans son chamboulement émotionnel, implore à Dieu de mettre fin à ses jours et Dieu va faire pousser un arbre pour prendre soin de lui. Et Jonas, c'est la même chose. Il y a un arbre aussi qui va pousser. Mais Jonas, les deux, en fait, sont des prophètes. Ils vont obéir à Dieu. Il y en a un peu moins le cœur aligné sur la chose, Jonas. Jonas n'est pas très content que Dieu ait été miséricordieux. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que les deux sont seuls avec leur Dieu. Et les deux vont réagir différemment. Les deux vont avoir une plante qui va pousser pour prendre soin d'eux. J'ai envie de dire, c'est un peu la même chose un peu avec nous, c'est que dans notre solitude, si on va devant notre Dieu, il faut être prêt à changer notre cœur devant ce qui se passe. Ce que je trouve dommage dans l'histoire de Jonas, justement, c'est à quel point il reste quand même pas mal entêté dans son émotion. On voit même à la fin que le dialogue avec Dieu dans Jonas, Jonas n'est même pas content, puis Dieu lui dit « t'as plus de pitié pour une plante que pour les gens de Ninive », parce que la plante que Dieu a fait pousser pour prendre soin de Jonas dans sa solitude. il a plus de pitié pour elle que les gens que Dieu a sauvés. Dieu nous appelle à des missions parfois, on va avoir des réactions différentes. Et justement, l'exemple du ministère, c'est vrai, moi aussi, je l'ai vécu cette solitude-là de monter en leadership, que tes amitiés, tu dois les réadapter. Ça perturbe un peu ton environnement pour ceux qui tombent en position leadership. Et on peut être très frustré et on peut être très découragé, mais Dieu va faire pousser une plante, il va prendre soin de nous. Je pense pour nous, c'est l'évangile. L'évangile, qui Jésus qui est mort pour nous, qui nous donne la vie, qui est ressuscité pour nous. Et je crois que les gens qui nous écoutent, peu importe où vous êtes, si vous êtes en ce moment en chemin vers une mission que Dieu vous donne, si vous êtes en colère et ne pas vouloir faire la mission comme Jonas, si vous êtes comme Élie, puis déçu parce que vous pensiez que peut-être plus de gens auraient répondu à l'appel que vous avez répondu, vous avez quand même un Dieu qui va prendre soin de vous et qui va venir à votre rencontre. Et ça, c'est un message d'espoir pour chacun d'entre nous. Puis ça nous rappelle que l'être humain n'a pas été créé pour être seul. En regardant Genèse, Dieu crée l'homme et la femme. Dieu crée la femme comme vis-à-vis de l'homme. Puis je trouve ça intéressant. Oui, on peut parler du mariage, mais juste, j'ai besoin des autres, tout simplement. Je ne peux être seul. Et l'être humain ne peut être seul sur cette terre, que ce soit même les animaux, même et les autres humains. Et ça peut nous aider, parfois, ces relations-là, à passer la solitude. Je ne vous dis pas d'acheter 10 chats pour passer la solitude, mais veux pas, là, ça aussi. Parfois, on va prendre ça dans le ridicule, mais moi, mon temps seul avec le chien et la marche avec mon Dieu, c'est mes temps les plus ressourçants que j'ai. Dans la nature, avec. Et parfois, Dieu me parle à l'image du chien qui est là, qui se promène, qui voit l'écureuil, puis ça me fait penser à moi dans ma vie, qui regarde les distractions, puis qui court sur l'écureuil aussi. Tu sais, là, vraiment ça. Puis je me vois vraiment comme ça aussi, parce que Jésus est bon berger, puis moi, on va peut-être faire un autre podcast un jour sur le ministère, mais pour moi, je vois vraiment que les gens qui sont dans le ministère, on est plus comme un chien berger qu'un berger. Parce que le bon berger, c'est Jésus. Moi, je suis un berger maladroit. Parfois, je vais mordre quand il ne fallait pas mordre. À l'image du chien qui est anxieux, qui va vouloir réagir, qui parfois va être un bon chien, parfois il va être un mauvais. Et donc, dans mon temps seul, Dieu me parle à travers, puis il m'attire le regard sur des choses que je ne regarderais pas si j'étais entouré de la foule. Et à l'inverse aussi, quand je suis dans la foule, Dieu va mettre mon regard sur quelque chose que je n'aurais pas vu dans ma solitude, dans mon isolement. Donc, il y a vraiment une balance dans la vie chrétienne à discerner. Et on va tous avoir plus des tendances. Et puis ça, il faut aussi les accepter. Et après, laisser ce Dieu-là qui vient à notre rencontre faire le miracle qu'il a à faire et ne pas s'inquiéter, car quand on est seul, bah, Dieu viendra à notre rencontre et va nous faire rencontrer une communauté. J'en ai aucun doute là-dessus.
Wow. Alors, notre question principale, c'était « Où est Dieu dans ma solitude? » Ben, j'ai l'impression qu'il est avec nous. Il nous a en fait jamais laissés. Puis il s'occupe de nous, comme vous dites, il est là, il s'occupe de nous, puis il va peut-être permettre qu'on vive plus de solitude, ou peut-être qu'il va mettre une communauté sur notre chemin qui le reflète, qui va nous accueillir, ou peut-être qu'il va nous demander d'être le changement qu'on a besoin de voir, tu sais, cette expression-là qui va nous demander de faire un effort, puis de pousser, tu sais, comme un peu plus fort pour trouver cette communauté-là. Les réponses, ils peuvent varier d'une personne à l'autre selon notre contexte, mais ce que j'entends tout au long de cette conversation, c'est que Dieu, lui, il nous quitte pas, puis il nous abandonne pas.
Et il peut même nous guider dans la solitude. Je veux dire, Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert. On peut aller lire ça dans Matthieu 4. Paul, après sa conversion, va passer un temps dans le désert aussi. Je ne veux pas dire nécessairement qu'il était seul, mais ce n'est pas pareil que d'être à Antioche. C'est là, ça aussi, l'Esprit va nous guider. L'Esprit va nous indiquer dans la saison dans laquelle on est et va pourvoir, justement. On n'est pas seul.
Et même quand on l'est, même quand on se sent comme si il n'y a personne d'autre dans l'univers qui peut possiblement comprendre, il faut se rappeler que Jésus a été coupé de la présence du Père à la croix. Il faut se rappeler que lui, la solitude ultime, il l'a déjà vécu. Puis, il l'a vécu pour que toi et moi, on n'aille jamais à vivre ça. Donc, même quand on vit le pire des pires situations, il faut se rappeler qu'on connaît quelqu'un qui a passé par là et qui a même vu pire. Et qui nous comprend, qui nous connaît, qui compatit avec notre faiblesse et qui va prendre soin de nous dans cette situation-là.
Oui.
Amen.
Mais merci à vous deux d'avoir pris un moment avec moi pour parler de solitude. J'apprécie énormément.
Oui, nous aussi, on apprécie. Ah, attends, je vais faire...
Oui, je voulais un effet spécial.
Je suis désolé, je savais pas si je devais parler aussi à la fin. Ou... Mais je peux tout faire. On peut finir de façon dramatique, si vous voulez, mais... Ouais, mais c'était un plaisir de faire le podcast avec vous autres. C'est fun.
Merci, Corentin, d'être venu nous jaser. Merci.
J'ai des questions est un podcast de Convergence Québec et Pouvoir de changer étudiant. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et pour plus de contenu, des photos, des citations et pour apprendre à se connaître, rejoins-nous sur Instagram ou Facebook en cherchant g.d.question. On se retrouve bientôt pour répondre à une nouvelle question.